alone. Boop-boop-bidoo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambil.
À page, nous nous retrouvons en ce vendredi 22 septembre sur les ondes de Radio Occitanie. Alors j'espère que vous avez tous passé un bel été, reposant et riche en lecture, et que vous êtes prêts, eh bien, pour cette rentrée. Justement, c'est aujourd'hui la première émission de la nouvelle saison radio qui s'ouvre. Et pour ce faire, je reçois Vincent Martorel. Bonjour Vincent.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Eh bien, c'est avec plaisir. Et puis, bonne fête. Il semble que c'est la Saint-Vincent aujourd'hui.
Ah non, c'est au mois de janvier.
Oh mince.
Non, mais c'est gentil. Bah, écoutez, vous prenez un peu d'avance, mais c'est sympa.
Alors, ça doit être le 22 janvier.
Le 22 janvier, tout à fait.
Ah, voilà, je me suis trompée de quelques mois.
Non, mais c'est gentil quand même. J'apprécie, croyez-moi.
Bon, ben voilà. Bonne fête quand même, alors. Et avec qui nous allons vous présenter son roman intitulé La Maison Jaune, publié aux éditions Néobook. Mais avant, la page info. Alors, avec cette première info, les 6, 7 et 8 octobre prochains aura lieu le 9e Festival international des littératures policières Toulouse Polar du Sud dans notre ville rose. Des rencontres avec de nombreux écrivains d'ici et d'ailleurs, des débats, des lectures et puis un grand rallye policier préparé et organisé par Chrysostome Gouriot, un écrivain de notre région qui était venu nous présenter à page, c'est une de ses novellas et qui reviendra d'ailleurs très bientôt pour présenter ses nouveautés. Alors, tout le programme de ce 9e Festival des littératures policières sur www.toulouse-polar-du-sud.com. Et puis, la deuxième info, justement en rapport avec ce festival policier, le mercredi 4 octobre à 20h30, à la médiathèque de Tournefeuille, 1 impasse Bailac, le café littéraire de Tournefeuille vous donne rendez-vous pour une rencontre avec Dominique Format autour de son dernier livre, Albuquerque. C'est aux éditions La Manufacture de Livres, un récit de règlement de compte et de cavale à travers le Nouveau-Mexique. Alors, merci à Claude qui fait la technique de cette émission aujourd'hui. Alors, je me tourne vers mon invité. Donc, Vincent, c'est la première fois que vous venez à page.
Oui.
Et nous allons vous présenter un petit peu aux auditeurs de Radio Occitanie.
Oui, avec plaisir.
Donc, vous avez travaillé dans le social pendant...
Oui, pendant de longues années.
De longues années.
Voilà.
Et vous avez toujours écrit.
Oui, en fait, d'autant que remontent mes souvenirs, je crois que je suis en train d'écrire.
Voilà, vous êtes né avec un...
Je pense que je suis né avec un crayon à la main,
main,
une petite feuille de papier, des histoires plein la tête.
Eh bien, c'est très bien, c'est très bien. Pour notre plus grand plaisir, c'est parfait. Et puis, vous lisez beaucoup également.
Oui, mais c'est nécessaire. En fait, je n'ai même pas imaginé écrire sans lire, quoi.
Vous nourrissez de mots.
Exactement.
Voilà. Alors, vous publiez depuis environ 7 ans.
C'est ça, oui, voilà.
Donc, des romans, des recueils de nouvelles, du théâtre, des contes musicaux pour enfants également, parce que vous avez fait de la scène pendant
oui,
un temps.
Oui, j'ai fait de la scène pendant une dizaine d'années, ici, à Toulouse et un peu partout. Je me suis promené, où je présentais en fait mes propres chansons. Et puis,
donc, vos propres textes.
Mes propres textes, ma propre musique. Bon, voilà. Et puis, un jour, on a... Effectivement, j'ai travaillé sur un projet de spectacle pour enfants qui s'appelait Le Fauteuil Magique.
Et puis, vous écrivez aussi des petites séries policières, des petits feuilletons qui sont disponibles en numérique.
Oui, c'est ça. Depuis le mois de mai 2017, donc Agnès Bockel, qui est mon éditrice chez Néobook, m'a demandé de travailler sur un projet de feuilleton policier. donc sous forme de nouvelles, donc qui sont publiées depuis le mois de mai donc sur la plateforme numérique de Neobook, et qui donc vont le dernier épisode va sortir au mois d'octobre, et la version papier sortira elle en novembre, condensant les six épisodes.
Voilà. Très bien, donc une occasion de découvrir comment vous écrivez en version policière.
Voilà, alors ça s'appelle Les Enquêtes de Julius Vasselot.
D'accord.
Voilà.
Donc vous reviendrez peut-être nous en parler.
Avec grand plaisir.
Et puis il faut signaler aussi une réédition d'un de vos romans, La théorie du papillon, qui va se faire prochainement.
Jeudi prochain.
Éditions Néo-Group,
toujours pareil.
Toujours,
voilà, oui. C'est un roman qui est sorti il y a quelques années, et donc la maison d'édition a décidé de refaire, de donner une deuxième chance à ce roman qui marche bien, il faut le dire. Et donc il ressort, il sera en librairie jeudi matin.
Très bien, donc peut-être l'occasion ici d'en reparler prochainement.
Avec grand plaisir là aussi.
Alors, vous m'avez tout à l'heure, hors antenne, raconté une jolie histoire, dans le sens où l'amour donc des mots, ce désir d'écrire, et puis cet attrait pour la lecture également, vous ne vient pas de votre milieu. Il n'y avait pas de livres chez vous quand vous étiez enfant, mais votre père vous avait inscrit à la bibliothèque municipale.
Oui, c'est ça, en fait, rue du Périgord, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui la situent.
Oui, tout à fait, à Toulouse.
Et donc, j'avais 7 ans. Et donc il est allé, lui il considérait que acheter des livres c'était pas une priorité, trop cher, ça prenait la poussière, enfin bon, voilà, une fois que les livres sont lus à quoi ça peut bien servir, et donc il a décidé comme il voyait que j'avais envie de lire, il a décidé de m'inscrire à la bibliothèque municipale, enfin pour les jeunes, hein, pour les petits. Et je me souviens très très bien de ce moment où il est allé m'inscrire à la bibliothèque municipale. Il m'a dit entre autres maintenant tu vas pouvoir avoir des livres quand tu veux, comme tu veux, mais d'abord tu dois en prendre soin et tu dois les rendre dans les délais. Voilà, c'était la condition sine qua non, sinon mon abonnement s'arrêtait.
Et vous avez bien suivi les instructions.
Voilà. Oui, il valait mieux.
Et voilà, donc c'est comme ça que vous avez pu lire tout ce que vous avez eu envie de lire.
Exactement, et puis dès que j'ai pu, je suis passé dans la bibliothèque des grands, parce que ça m'intéressait. J'étais plus intéressé par lire des romans que lire des bandes dessinées.
Que les bandes dessinées, d'accord. Voilà. Alors, La Maison Jaune, aux éditions donc Neobook, alors, c'est un roman que vous avez dédié à vos grands-parents paternels.
Oui,
c'est
ça.
Et on va voir
pourquoi.
Par l'histoire, voilà. Pourquoi. Un titre qui prend tout son sens à la lecture, bien évidemment. Et puis, une belle photo de couverture qui illustre bien le roman également, La Maison Jaune. C'est un tableau, une reproduction du tableau de Charles Hermans, À l'aube, qui date de 1875, donc du 19e siècle. Ce qui ne correspond pas, comme vous m'avez dit tout à l'heure, à l'époque du roman, qui est plutôt au 20e siècle.
Oui,
hein,
ça se situe au début de la guerre d'Espagne.
Voilà, mais qui illustre quand même parfaitement l'idée.
L'ambiance générale.
Voilà. Tout à fait. Alors, deux parties composent ce roman, donc qui mêle à la fois des faits d'histoire et des faits romanesques, une fiction donc sur fond de guerre civile espagnole et d'exil, puisqu'il s'agit donc de ce fond historique-là.
Oui, parce qu'en fait, le livre est dédié à mes grands-parents paternels, donc qui ont quitté l'Espagne, non pas au moment de la guerre d'Espagne, mais bien avant.
Bien avant,
puisqu'on là on se situe même quasiment avant même la guerre de 14. Donc ils sont arrivés. En fait, mon grand-père souhaitait trouver du travail. Il ne trouvait plus de travail en Espagne, donc il a franchi les Pyrénées. Et donc, comme bon nombre d'exilés, il s'est retrouvé dans le sud de la France. Et là, il est devenu tâcheron. Donc il a travaillé comme ça toute sa vie, et puis bon, après mon père était déjà du voyage, et ensuite sa sœur est née quelques années plus tard.
Voilà, donc ça explique ce choix de ce fond historique. Mmh. Alors c'est un roman avec des personnages attachants, de l'émotion bien sûr, de l'amour d'une façon générale, amour filial, amour tout court, je dirais aussi. Des sourires, il y a aussi des sourires dans ce roman, et puis de l'engagement, je trouve, et puis du voyage. Et puis ce qui en fait un roman plaisant à lire, où l'on suit avec attention eh bien, le parcours du personnage principal, on va le voir. Et c'est un roman avec des thèmes également qui sont importants, comme les racines, comme le passé.
Ce sont des choses qui me tiennent à cœur, en fait. On en parlait tout à l'heure hors antenne, d'ailleurs.
Oui, hors antenne, oui.
Et c'est vrai que il est important de savoir, alors je veux dire une banalité, alors affligeante peut-être, mais il est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va.
Oui,
moi, ça me semble limpide.
Et que le passé, des fois, revient, revient.
Ou on essaie de mettre un mouchoir dessus, un coup de vent et le mouchoir s'envole.
C'est une jolie image, en tout cas. Oui, c'est une très jolie image. Alors, cette première partie de ce roman, La Maison Jaune, donc, c'est « On nous raconte ». C'est écrit donc c'est l'histoire de Luisa et Antonio qui vivent en Andalousie dans un village qui s'appelle San José.
Oui, c'est ça.
Et pour que leur enfant soit en sécurité quand il naîtra, ils décident de fuir la guerre civile qui sévit et fuir leur village. Et après un long et fatigant périple à travers le pays et la montagne, ils arrivent à Barras, un village qui est réputé pour son accueil. C'est un village qui accueille tout le monde, tous ceux qui ont besoin d'être accueillis.
Tout à fait, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui ont des ennuis, même ceux qui sont qui peut-être des repris de justice.
Oui, voilà, c'est aussi bien.
On les accueille, c'est une terre d'accueil.
C'est une terre d'accueil. Alors c'est le père Larousse qui les accueille, justement, et qui va s'occuper d'eux le temps que bien Antonio trouve un travail et une maison. Et c'est un des personnages que je trouve attachant, ce père Larousse.
Exactement. C'est-à-dire qu'il est à l'écoute.
On verra
après dans la suite du livre, mais c'est un homme qui outre le fait d'être
aussi,
un homme de Dieu,
oui.
En fait, c'est aussi un homme qui est à l'écoute des autres hommes. Quoi.
Oui, aussi, également, oui, c'est vrai. Alors, Luisa apprend, dans le village, Luisa, un jour, apprend qui sont ces filles aux habits et au maquillage si colorés qui viennent se confesser à l'église du père Larousse.
C'est un choc pour elle.
Ah oui, elle est un peu choquée, oui, quand elle sait, quand on lui explique ce que font ses filles donc dans la maison jaune, donc elle est choquée, c'est vrai. Et puis un jour Antonio reçoit une lettre de sa famille qui est restée donc au village de San José et qui raconte les morts, les exécutions, les dénonciations, et Antonio donc va décider de repartir dans son village pour aider ceux qui sont restés, qui résistent et qui se battent,
parce qu'il n'a pas le choix. Il pourrait très bien choisir la sécurité de rester avec sa femme qui est enceinte.
Mais il se dit, je ne peux
pas laisser mon frère et toute ma famille aux mains des fascistes. Et donc, il décide de repartir.
C'est dur, hein. C'est un choix
qui est difficile parce que
Luisa, eh bien, va se faire embaucher, ben, justement, à la Maison Jaune comme cuisinière.
Oui, c'est ça.
Malgré ses réticences premières.
Elle n'a pas le choix non plus, malheureusement. Oui.
Et alors, c'est rigolo, ça m'a fait sourire. Elle est installée dans une chambre avec un grand miroir au plafond.
Là, il y a des questionnements qui se posent pour elle, oui, effectivement.
Oui, voilà. Mais oui, parce qu'elle n'est pas habituée à ce genre de fête, effectivement. Alors, elle fait la connaissance avec Sonia, une des pensionnaires, puis avec les autres, les jumelles, Loba. Et puis, c'est la naissance de Pablo qui arrive dans la Maison Jaune, mais sans Antonio, qui est toujours absent,
qui est toujours
en train de résister, de se battre.
Qui se bat comme il peut, avec les moyens dont il dispose, de l'autre côté des Pyrénées. Oui.
Tout à fait. Et puis, malheureusement, une lettre un jour arrive à Barras qui annonce
son décès.
Et Luisa ne va pas...
Elle ne va pas le supporter. Si vous voulez, c'est un peu comme Ophélie. Elle a tellement d'amour pour cet homme qu'elle ne supporte plus sa vie sans lui.
Pourtant, elle a Pablo.
Oui, mais elle a compris que cet enfant serait en sécurité.
Ah voilà, donc il est en sécurité dans la Maison Jaune avec Madame Raymonde les filles.
Madame Raymonde.
C'est un sacré personnage, Madame Raymonde.
Oui, tout à fait. C'est un personnage que j'ai voulu volontairement truculent.
Ah oui, tout à fait.
Je dirais que c'est presque... Alors, là, peut-être la comparaison est un peu osée, mais c'est le pendant, en fait, du prêtre du village, quoi. Ils ont ce côté humain, tous les deux.
Oui, voilà, tout à fait.
Mais ils sont dans des domaines diamétralement opposés.
Ah oui. Et puis bon, elle est assez excentrique avec ses tenues, ses chapeaux.
Ah, oui. Elle est magnifique.
Ah oui, on l'imagine tout à fait, c'est vrai. Alors, il y a beaucoup d'émotions dans cette fin de première partie du roman. Avec donc la mort d'Antonio, la mort de Luisa. C'est de l'émotion. Et alors la deuxième partie, en fait, ça va être Pablo qui nous raconte son histoire.
Le narrateur, en fait, s'efface au profit de Pablo.
Voilà, tout à fait. Bah, du petit qui est né, voilà, dans cette maison jaune. Alors, il nous raconte bien qu'après vote du conseil municipal, il a été confié, on va dire, de manière légale à Madame
Raymonde.
Parce
que la question se pose.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait de Pablo ?
Et oui. Donc, il y avait des pour, des contre. Voilà. Enfin bon, voilà. Et donc, il a été confié à Madame Raymonde. Alors, il y a des souvenirs. Enfin, je vais raconter quelques souvenirs qui m'ont plu. Il raconte, par exemple, son premier jour de rentrée à l'école du village. Alors, avec ses quatre compères qui vont devenir ses amis, trois garçons et une fille, Agathe, dont ils sont bien sûr tous les trois amoureux. Et puis leur instituteur, qu'il surnomme Philochard.
Oui, alors ça, c'est un petit clin d'œil au Pléniclé pour ceux qui les ont lus. Oui.
Ben, c'est une des lectures de Pablo, d'ailleurs, et une des vôtres, j'imagine.
Ah oui, ça a été longtemps et ça continue parfois. Là.
Ah oui,
tout à fait, des moments de détente comme ça.
D'accord.
Oui, absolument, oui.
Et puis, donc, cet instituteur qui n'apprécie d'ailleurs pas Pablo ni la Maison Jaune, voilà. Et puis, Pablo apprend la vérité sur la disparition de ses parents par le père Larousse et Madame Raymonde, justement, parce qu'il ignorait tout de, de ses parents, parce qu'il ne les a pas connus, finalement, voilà. Alors, il y a aussi l'anniversaire de Pablo avec une fête somptueuse dans la Maison Jaune, préparée et organisée avec amour par Madame Raymonde et par toutes les filles de la maison, et où ses quatre amis sont conviés, et Pablo apparaît en costume oriental, tel un Maharaja.
C'est ça, en fait, c'est le roi de la fête.
Ah oui, puis dans un décor vraiment féerique.
C'est les mille
et
une nuits.
Elles ont fait les choses en grand.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est l'enfant de la maison. Quoi.
Et oui,
c'est l'enfant de la maison,
oui,
et donc, pour lui, rien n'est trop beau, quoi.
Tout à fait.
Voilà.
Alors, il y a aussi un passage qui est joli, aussi un passage plein de poésie. C'est quand Agathe fait une déclaration d'amour à Pablo devant un rosier pourpre et qu'elle lui montre son coin secret qui est une clairière symphonique. J'ai beaucoup aimé et qu'elle lui donne un baiser.
Alors, les clairières symphoniques, ça existe. Hein.
Ça existe vraiment.
Enfin, pour moi, ça existe. Quand vous baladez en forêt, que vous arrivez dans une clairière où vous avez des arbres qui s'élancent vers le ciel, les nuages, le soleil, je trouve que ça a un côté très, très symphonique.
Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, il y a aussi ce passage aussi qui est amusant, où on sourit, c'est à Barras, dans ce village, il y a aussi la gnôle de Jeannot et de Claudette. Et alors, il y a une fascination de l'alchimie qui transforme les fruits fermentés en une liqueur transparente. Ça relève de la magie, presque.
Pour les enfants, oui, bien sûr. Oui.
Pour les enfants. Et ça donne lieu à une grande fête au village.
On tue le cochon, oui.
Voilà, oui, on tue le cochon. voilà, donc ça, c'est un passage.
Un côté ils ont un côté un peu, comment dirais-je, Astérix et Obélix, là, je veux dire, c'est un côté,
oui.
Les grands banquets comme ça, en fait, ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. On mange, on finit par l'agneau, quoi.
Oui, voilà. Donc ça n'en finit pas.
L'agneau, la maison, en plus. Hein, oui.
Alors, un soir d'orage, Pablo découvre inopinément les activités de la Maison Jaune dans la chambre de Sonia.
Oui.
Parce qu'il a peur de l'orage, il arrive dans sa chambre et
là, il se rend compte. Il se rend compte pourquoi ces femmes sont là. Ouais.
Voilà pourquoi. Et puis il y a une autre découverte importante, puisque c'est celle dans le grenier d'un matériel de peinture.
Oui.
Et Pablo va se révéler un talent pour la peinture. Il commence à peindre sur les murs. D'ailleurs, il prend une gifle par Madame Raymonde.
Oui, une sacrée volée, oui.
Voilà, la première et la seule d'ailleurs. Et d'ailleurs, elle lui achète après tout le matériel pour qu'il puisse.
Elle s'est rendue compte, en fait, du talent de cet enfant. Donc, pourquoi contrarier son talent, quoi?
Oui. Donc, au contraire, elle lui fournit tous les outils pour qu'il développe ce talent. Alors, le premier dessin de Pablo, c'est le portrait de sa mère qu'il fait d'après une photo, bien sûr. Et puis, il peint même le chat Gribouille.
Oui. mais tout ce qui lui passe sous la main.
Voilà. Quoi. Et les jumelles aussi, Marie et Anna. Alors, d'où ses premiers émois en les peignant à moitié vêtues, on va dire. À moitié dévêtues.
Oui. C'est-à-dire qu'il découvre, Pablo grandit, donc
c'est
il découvre.
L'adolescence,
il
est adolescent, et donc avec les émois de son âge, et donc en plus, forcément, il y a plein de jolies jeunes
femmes. Les tentations sont à côté, quoi.
Pardon ?
Les tentations sont là.
Oui.
Mais en fait, c'est un jeu aussi qui s'établit entre lui et ses filles, qui comprennent parfaitement que ce garçon il est ado, enfin, c'est un adolescent, donc
oui,
elles comprennent.
Oui, puis elles le font avec, beaucoup de sensibilité.
Tout à fait. Il n'y a pas de brutalité là-dedans.
Ah oui, non, c'est fait. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'amour, je veux dire, puisque voilà, c'est le petit protégé de la Maison Jaune. Alors, il y a un clin d'œil, j'ai bien aimé, ça m'a rappelé, moi, des souvenirs d'enfance, au jeu du nain jaune, avec des parties endiablées, animées au bar des amis.
C'est ça.
Du village de Barras, le fameux jeu du nain jaune, vous y avez joué.
Moi, j'y ai joué avec mon père, justement.
Voilà. Ah ben voilà. Et puis, il y a aussi une promenade assez singulière avec Loba, une des pensionnaires de la maison, jaune, dans des contrées un peu assez mystérieuses.
C'est-à-dire que Loba, c'est une sorcière, en fait.
Oui,
hein.
Voilà.
Donc, enfin, on dirait, au Moyen-Âge, on aurait appelé ça une sorcière. Maintenant, elle a un côté plutôt médium. Elle a un côté... elle va permettre, là, je ne vais pas trop en dire peut-être aussi, mais elle va permettre à Pablo, en fait, de lever un voile sur une partie de son passé.
Voilà, tout à fait. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, puis original, quoi.
Il fallait trouver un moyen, si vous voulez, de faire en sorte que Pablo apprenne la vérité. Et
d'accord.
Pas uniquement par un moyen, discussion.
Oui, tout à fait.
Il fallait trouver quelque chose de plus original, quoi.
Oui, voilà. Bah, c'est le cas, c'est original. Et puis
merci.
Mystérieux à souhait. voilà, enfin, moi, j'ai bien aimé ce passage également. Alors après, vient l'annonce de Madame Raymonde à Pablo pour la poursuite de ses études de dessin dans une grande ville pour faire fructifier son talent.
Voilà.
Donc ça part d'un bon sentiment de Madame Raymonde.
Oui.
Même si elle sait que ça va être difficile de
vivre
s'en
séparer.
Sans Pablo.
Oui.
Et Pablo, en fait, lui, ça ne va pas lui plaire du tout, cette histoire d'aller dans une grande ville, continuer le dessin.
Non, ça lui convient pas.
Et il décide de fuir une nuit. Il s'enfuit de la Maison Jaune. Voilà. Et donc, on peut dire un peu, c'est la fin d'une deuxième partie, de la deuxième partie, et un début de troisième partie, même si ce n'est pas défini comme ça dans le livre.
Ouais.
Mais il va s'en suivre tout son futur, le futur de Pablo.
Alors qu'en fait, c'est sa vie à lui qui commence, sa vie d'adulte qui commence.
Oui, sa vie, oui, voilà, c'est ça. Oui, sa vie.
Il y a eu un moment...
En dehors de la Maison Jaune.
Exactement,
voilà,
qui est quand même un endroit... par définition, qui était un endroit fermé, mais où il y régnait une certaine forme de liberté, quand même.
Oui, tout à fait. Alors, on ne va pas tout dire, on laisse le suspense, mais on peut dire quand même que l'avenir de la Maison Jaune va être menacé et qu'une solution sera trouvée grâce à un vieux grimoire. Alors,
oui, c'est ça.
J'ai bien aimé l'idée aussi, j'ai beaucoup aimé.
Ouais, oui.
Il y a des voyages, avec notamment Barcelone et des très belles descriptions de Barcelone.
Oui, ben merci. Oui.
Le berceau de vos ancêtres.
Le berceau, en fait, le côté de
la
famille paternelle.
Voilà. Et puis, il y a aussi une bagarre mémorable. C'est un passage que j'ai beaucoup aimé, qui est très amusant, dans la salle municipale du village de Barras, à coups de parapluie, avec une occasion où chacun va régler ses comptes, le maire, le docteur, les femmes ne sont pas en reste non plus.
Ah, c'est une bagarre générale qui en rappellera certains souvenirs, et notamment, enfin, bon, on en a parlé aussi tout à l'heure, mais je me suis inspiré un petit peu pour l'ambiance d'une chanson de Brassens qui s'appelle Hécatombe.
Voilà.
Où effectivement, on dit au marché de Brive-la-Gaillarde, voilà, bref, et où il y a une bagarre phénoménale.
Et voilà, donc ça, c'est un passage. D'ailleurs, je cite, « Décidément, dans ce village, rien ne se passait comme ailleurs. On accueillait les réfugiés, les repris de justice, et l'on se battait comme des chiffonniers à cause d'un bordel. »
Exactement.
C'est vraiment...
Oui, voilà. Non, parce que la Maison Jaune, en fait, est le poumon économique de Barras.
Oui.
Donc, alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont des relations un peu ambiguës avec ce principe de maison close que je ne défends pas dans le livre. Hein,
non, chacun est libre de...
Voilà, c'est, mais c'est le poumon économique de ce village.
Ben oui, tout à fait. Alors, je veux garder, bien sûr, le suspense pour les futurs lecteurs de La Maison Jaune sur la suite de l'histoire de Pablo, sur le début de son histoire à lui, personnellement. Et puis, ils le liront, il y a encore beaucoup de rebondissements. Croyez-moi, on n'est pas encore à la fin du livre. Il y a, Pablo va faire un tas de
Sa vie ne s'arrête pas, ne s'arrête pas à Barcelone.
Voilà. Et puis alors moi, ce que je voudrais, parce que le temps nous rattrape là aussi, je voudrais conclure en disant que dans ce roman, eh bien, il y a des thèmes qui résonnent, qui nous parlent, comme l'importance de ne pas renier, on l'a dit tout à l'heure, de ne pas renier son passé, de ne pas oublier d'où l'on vient et l'importance de ses racines. Ce sont des thèmes qui vous tiennent à cœur et que vous aviez envie d'inscrire dans ce livre, La Maison Jaune.
Dans ce livre-là, et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que dans les livres suivants, je me suis rendu compte que c'était un thème qui revenait.
Qui revient aussi. Donc, c'est vraiment un thème qui vous est cher.
Voilà, même si je me dis non, je ne vais pas partir sur un sujet comme ça. Petit à petit, au fur et à mesure que l'écriture du livre avance, je me rends compte que il y a quelque chose qui va s'implanter et qui est de l'ordre de cette résilience-là, quoi.
Oui. Et puis, comme on disait tout à l'heure, le passé, quoi que l'on fasse, il revient toujours à un
moment.
Oui,
tout à fait. Il vient toujours nous tirer un peu par l'orteil.
Oui, tout à fait. Oui. Alors, vous avez d'autres projets de romans, Vincent ?
Oui, je travaille donc sur un... Là, on a parlé de la théorie du papillon tout à l'heure.
Oui, qui est réédité
qui sort jeudi, là.
Voilà.
Mais donc, j'ai normalement, en 2018, j'ai deux autres livres qui vont sortir. Un qui parle en fait du retour des prisonniers de la Première Guerre mondiale, donc ça se passe en 1919, donc des gens qu'on croyait morts ou disparus, qui avaient leur nom sur les monuments aux morts et qui reviennent dans un village. Enfin, voilà.
C'est un sacré thème.
J'espère
là
que
aussi, hein,
j'aurai l'occasion de venir vous en parler.
Oui, c'est un sacré thème.
Et normalement, il y aura un autre roman qui va sortir en fait là aussi, qui lui est un roman plus léger. Qui est un roman sur des quadrants qui se passe pendant le festival de jazz de Marciac.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, donc c'est voilà. En musique, donc de la musique.
Ah oui, absolument. Toujours de la musique, de l'amour, de l'amitié,
voilà.
de la complicité des bons repas.
Bon, bah, je vais pas avoir assez d'émissions pour accueillir tous vos livres,
mais non,
Vincent.
Mais nous avons le temps.
En tout cas, merci beaucoup, Vincent, d'être venu à Page nous présenter votre roman La Maison Jaune aux éditions Néobook. Et puis nous, on se retrouve vendredi.
Merci à vous.
Hein. Bah, avec plaisir. On se retrouve vendredi 20 octobre à 14h30 sur Radio Occitanie. Et je recevrai Jean-Yves Lorichesse et son nouveau roman intitulé « Un passant incertain » et c'est aux éditions « Le temps qu'il fait ». Merci encore à Claude pour la technique de mon émission. Et puis, adiciats.
Merci, au revoir. Poop-poop-y-doop.